Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, le poète autrichien Hugo von Hofmannsthal est né à Vienne en 1874, dans cette ville de la musique, des fêtes et du baroque, dont il dira, je le cite, « C'est une ville aux sortilèges inépuisables, où l'on respire un air énigmatique, doux, saturé de lumière, et sous le ciel printanier, d'une clarté de rêve, ses palais baroques, gris-noirs, aux porches fermés par des grilles de fer, aux moucharabiers compliqués, où les armoiries montrent des lions et des lévriers de pierre, grands et gris, ces vieilles cours emplies par le clapotis des fontaines fraîches, par les taches du soleil, le lierre et les amours, et, au crépuscule, ces recoins fascinants et ces impasses où les êtres qui s'y risquent perdent soudain leur banalité, leur matérialité corporelle. » Voici déjà inscrit comme par hasard dans les lieux où la vie de Hofmannsthal va tout entière se dérouler, cette atteinte à l'intégrité de la personne, en même temps que cet appel vers un monde intermédiaire où les choses sont faites du même tissu que les songes. En effet, Hofmannsthal reviendra souvent sur ces paroles de Prospero dans La Tempête de Shakespeare, qui imite notamment un vers de cet tercet qu'on lira plus avant. Issu d'une famille noble d'origine partiellement juive du côté paternel, Hofmannsthal écrivit entre 1890 et 1907, c'est-à-dire entre 16 et 23 ans, quelques 150 poèmes, dont une trentaine au moins, selon son traducteur Jean-Yves Masson, sont des chefs-d'œuvre qui suffisent à faire de lui l'un des plus grands, l'égal d'un Keats ou d'un Leopardi, qui ne doivent pas leur renommée à davantage de vers si l'on s'en tient au texte vraiment marquant. Cette création poétique d'un tout jeune homme lui aura quelquefois valu d'être comparée à Rimbaud, en lien paradoxalement avec l'un de ses textes en prose les plus célèbres, la lettre de Lord Chandos. Il s'agit d'une lettre fictive datée du 22 août 1603, adressé au philosophe, scientifique et homme d'État anglais Francis Bacon par Philip Lord Chandos. Dans cette lettre, composée en 1902, considérée plus tard comme fondatrice d'une véritable modernité littéraire, parfois même qualifiée de pré-existentialiste, Lord Chandos expose les raisons qui le font renoncer à toute activité littéraire. Cependant, pour teinter de confession autobiographique que soit ce texte, la comparaison avec Rimbaud s'arrête là pour au moins deux raisons. Il n'y a aucun ensemble aussi saisissant que La saison en enfer ou Les illuminations. Et par la suite, Hofmannsthal, loin de cesser d'écrire, même si en effet ce n'est plus la seule création poétique qui lui importe, participe à ce que l'on a nommé le modernisme viennois, collabore au mouvement Jeune Vienne, à la revue littéraire Feuille pour l'art, qu'il fonde avec le poète allemand Stefan George, fréquente le célèbre café Grünsteidl, et l'on n'en finirait pas de nommer les écrivains majeurs qu'il côtoie ou influence: Arthur Schnitzler, Karl Kraus, Stefan Zweig, Robert Musil, Joseph Roth. Lisons alors un extrait de la lettre à Lord Chandos pour en mieux mesurer la force d'évocation. Cet indicible sentiment de félicité naît d'un feu de berger lointain et solitaire plutôt que du spectacle d'un ciel constellé, du chant de la dernière cigale menacée par la mort, quand déjà le vent d'automne chasse des nuages d'hiver au-dessus des champs dépouillés, plutôt que du grondement majestueux de l'orgue. Et je me compare quelquefois en pensée à Crassus, l'orateur, dont on rapporte qu'il était, Si, démesurément épris, d'une murène apprivoisée de son étang, poisson terne muet aux yeux rouges, que la rumeur publique s'en empara. Et un jour que Domitius, en plein Sénat, lui reprochait d'avoir versé des larmes sur la mort de ce poisson, voulant ainsi le faire passer pour demi-fou, Crassus lui fit cette réponse. « J'ai donc fait à la mort de mon poisson ce que vous n'avez fait à la mort d'aucune de vos deux épouses. » Je ne sais combien de fois ce Crassus avec sa murène me vient à l'esprit comme un double de moi-même dont l'image se projette par-dessus le précipice des siècles. Non pas à cause de cette réponse qu'il fit à Domitius. La réponse mit les rieurs de son côté, dénouant l'affaire par un trait d'esprit. Mais c'est le fait lui-même qui me touche de près. Un fait qui serait resté le même si Domitius, sous l'effet d'une douleur sincère, avait pleuré des larmes de sang à cause de ses femmes. Il y aurait toujours en face de lui ce Crassus, pleurant à cause de sa murène. Et cette figure, dont le ridicule et la bassesse éclataient ainsi en plein milieu d'un Sénat maître du monde et délibérant des affaires les plus hautes, cette figure, quelque chose d'indéfinissable, me force à penser à elle d'une manière qui m'apparaît parfaitement extravagante au moment où je tente de formuler tout cela. L'image de ce Crassus est parfois présente la nuit dans mon cerveau comme une écharde autour de laquelle tout suppure, bat et boue. J'ai l'impression alors d'entrer moi-même en fermentation, de rejeter des bulles, de bouillonner et de devenir phosphorescent. Et il y a dans tout cela une espèce de pensée fiévreuse, mais une pensée qui se sert de matériaux plus immédiats, plus fluides, plus ardents que les mots. Ce sont également des vertiges, mais de ceux qui ne semblent pas, comme les vertiges du langage, conduire dans l'immensité sans fond, mais pour ainsi dire en moi-même et au sein le plus profond de la paix. Cette lettre imaginaire reçoit un écho particulier si on la met en relation avec une crise personnelle que Hofmannsthal a traversée et qu'évoque une lettre bien réelle, celle-là, qu'il a adressée à son correspondant Edgar Cargue, et dont je lis un extrait. La plupart des gens ne vivent pas dans la vie, mais dans un simulacre, dans une sorte d'algèbre où rien n'existe et où tout seulement signifie. Je voudrais éprouver fortement l'être de toute chose et plonger dans l'être la profonde signification réelle. Car l'univers entier est en fait plein de significations, essence devenue forme, l'être escarpé des montagnes, l'être immense de la mer, l'être obscur de la nuit, la manière qu'ont les chevaux de regarder fixement, la constitution de nos mains, le parfum des œillets, la succession des houles et des creux dans le sol, ou des dunes ou des falaises sévères, la manière dont un pays entier se livre, vu d'une montagne, et ce qu'on ressent en pénétrant par une journée torride dans un frais vestibule aux dalles mouillées, ou lorsqu'on mange une glace. Dans toutes les innombrables choses de l'existence, en chacune isolément et de façon singulière, quelque chose s'exprime, que les mots jamais ne peuvent rendre, mais qui parle à notre âme. Ainsi, le monde entier est un discours de l'insaisissable à notre âme, ou bien un discours de notre âme à elle-même. La tristesse est un concept de la langue réelle. Dans celle de la vie, il y a mille tristesses. La tristesse quand on ne voit que pierre, mer et ciel. La tristesse quand on est obligé, peut-être à cause d'une odeur de fraises fraîches, de songer à certaines journées de l'enfance. La tristesse dans les yeux las de certains singes. La tristesse tout autre quand le soleil décline d'une certaine façon. Et tant d'autres choses encore, non ? Les mots ne sont pas de ce monde. Ils sont un monde en soi, justement une sorte de monde entier, complet, comme le monde des sons. On peut dire tout ce qui existe et on peut mettre en musique tout ce qui existe. Mais on ne peut jamais dire une chose tout à fait comme elle est. C'est pourquoi les poèmes suscite une telle nostalgie stérile. Les deux lettres lues auront montré, fût-ce en traduction, la haute tenue de la prose de Hofmannsthal. Et, quoi qu'il ait renoncé, on l'a dit, à la forme poétique dans les premières années du XXe siècle pour se consacrer au théâtre, au conte, et surtout en tant que librettiste, à l'étroite collaboration avec Richard Strauss, qu'il a rencontré en 1906, il sera le librettiste des opéras Electra, Le Chevalier à la Rose, Ariane Anaxos, La femme sans ombre, Arabella. Bref, il poursuivra une intense activité de création dramatique et musicale. Mais puisque c'est la fulgurance poétique de ces jeunes années qui nous a guidés vers lui, on va lire quelques-uns des poèmes qu'a traduit de l'allemand Jean-Yves Masson et qui sont publiés aux éditions Verdier Poche, sous le titre « Le lien d'ombre », expression extraite d'un des poèmes que je lirai. Je voudrais lire tout d'abord le poème intitulé « Instant vécu ». De vapeurs grises et argentées était emplie la vallée du crépuscule, comme lorsque la lune perle à travers les nuages. Pourtant, ce n'était pas la nuit. Dans la vapeur grise et argentée de la vallée obscure, s'estompaient mes pensées crépusculaires. Et doucement, je m'enfonçais dans le tissu mouvant de la mer transparente et j'abandonnais la vie. Là, comme elles étaient merveilleuses, les fleurs, avec leurs corolles obscurément phosphorescentes, un entrelacs de plantes à travers lesquelles une lumière orangée, comme celle des topazes, pénétrait par vagues brûlantes, luminescentes. Et tout était empli du flot profond d'une musique qui montait mélancolique. Et je savais, bien que ne pouvant le comprendre, je le savais cependant, cela, c'était la mort devenue musique, animée d'une nostalgie puissante, suave, sombre et brillante, parente de la mélancolie la plus profonde. Mais, chose étrange, un inexprimable regret pleurait sans bruit dans mon âme, désirant retrouver la vie, pleurait comme pleure un voyageur, lorsque sur un grand vaisseau, aux gigantesques voiles jaunes, à l'approche du soir, sur l'eau bleue sombre, il passe devant la ville de son père. Alors il voit les ruelles, il entend bruire les fontaines, il respire le parfum des bosquets de lilas, il se voit lui-même, un enfant qui se tient sur la rive, avec des yeux d'enfant qui sont inquiets et qui veulent pleurer. Il voit par la fenêtre ouverte de la lumière dans sa chambre, mais le grand vaisseau l'emporte plus loin, qui glisse sans bruit sur l'eau bleu sombre de ses gigantesques voiles jaunes aux formes étrangères. Je lis un autre poème intitulé « Ton visage ». Ton visage était tout chargé de songes. Sans parler, je te regardais, pris d'un sourd tremblement. Comme tout revenait, qu'autrefois déjà je m'étais, au cours de nuits lointaines, entièrement livré à la lune et à la vallée trop aimée, dont les pentes désertes portaient ces maigres arbres, dispersés parmi lesquels allaient ces petits nuages de brume basse, et à travers le silence, le fleuve faisait gronder, toujours fraîche et toujours étrangère, ses eaux d'un blanc d'argent. Comme tout revenait, car à toutes ces choses et à leur beauté, qui était infertile, je me livrais entièrement dans une ardente nostalgie, comme à présent, pour contempler ta chevelure et cet éclat qui brille entre tes paupières. Je lis à présent aussi une série qui porte le titre « Tercet ». Précisons que les poèmes, justement titrés « Tercet », ont été lus en 1894 dans le salon d'Arthur Schnitzler, et précisons aussi qu'ils obéissent à un schéma de rime qui renvoie au modèle de la Divine Comédie de Dante, ce qu'on nomme en italien la terza rima, ce que, bien sûr, la traduction ne peut pas restituer. Le premier ensemble, le premier volet de cet essai est sous-titré « Sur la fugacité des choses ». Je sens encore son souffle sur mes joues. Comment se peut-il que ces jours proches se soient enfuis, pour toujours enfuis, passés à jamais ? C'est là chose que nul ne conçoit tout à fait, bien trop affreuse pour que l'on songe seulement à déplorer que tout s'écoule et se précipite au néant, et que mon propre moi, sans trouver nul obstacle, ait glissé jusqu'à moi depuis le corps d'un jeune enfant, et me soit comme un chien inquiétant, étranger et muet. Et puis, que j'ai vécu il y a 100 ans aussi, et que mes ancêtres, qui sont dans leur linceul, me soient autant liés que mes propres cheveux, et avec moi soit un autant que mes propres cheveux. 16 heures où, sur la clarté bleue de la mer, nous fixons nos regards et comprenons la mort d'un cœur si léger et solennel et sans effroi, comme de petites filles qui paraissent très pâles, avec de grands yeux, et qui toujours ont froid, regardent par un soir devant elles, en silence, et savent qu'à présent la vie s'écoule doucement de leurs membres ivres de sommeil jusque dans l'herbe et les arbres, et, pudique, sourit faiblement comme une sainte qui verse son sang. Nous sommes de la même étoffe que les songes, et les songes ouvrent leurs yeux, pareils à de petits enfants sous des cerisiers, de la cime desquels la course d'or pâle de la pleine lune s'élève à travers la vaste nuit. Ce n'est pas autrement que surgissent nos songes. Les voici, ils sont vivants comme un enfant qui rit, aussi grand qu'ils montent ou descendent dans l'air, que la pleine lune qui s'éveille à la cime des arbres. Le plus intime de nous-mêmes est livré au va-et-vient de leurs mains de spectre qui tissent dans l'espace encombré. Ils sont en nous et ils ont vie à tout jamais. Et trois font un homme, une chose, un songe. Je lis à présent le poème intitulé « Où que j'approche, où que j'aborde ». Où que j'approche, où que j'aborde, ici dans l'ombre, là, sur le sable, ils viendront près de moi s'asseoir. Et moi, je les divertirai et les lirai de mon lien d'ombre. Ce qu'ils connaissent, ils apprendront à le nommer mystérieux. Après, ils ne pourront plus guère croire les gestes de leur corps sans lien avec le cours des astres. Car je dirai, un grand pouvoir tient les rênes du jour, fait descendre la nuit. Mais en vous descendu se trouvent de très mystérieux empires, aussi calmes qu'au fond d'un puits. Alors, réprimant un frisson, ils se pencheront sur eux-mêmes et, pris dans les raies du mystère, ils se sentiront emportés vers le ciel d'un bleu plus profond. Je lis également un poème intitulé « La jeune fille et la mort ». Il faut que je retrouve la page. Cet or liquide, cet or vert, est un poison qui donne la mort. Comme il sent bon, comme quand le vent déchaîné se laisse follement prendre aux branches des acacias. Après, au clair de lune, on marche en silence sur un moelleux tapis de fleurs. Être mort, c'est peut-être cela, marcher sans bruit par des contrées étrangères, vide et sans sommeil, sur des ponts silencieux qui enjambent des eaux vertes, par de longues allées noires où tout se tait, à travers des jardins abandonnés. Et pour finir, j'arrive à la demeure de la mort. Dans la grande salle, il y a une grande table de malachite verte que des griffons soutiennent. La mort est un grand seigneur, assise à sa table qui m'invite, et il y a des pages en grand nombre, aux fines mains étroites, chaussées de velours noir, qui glissent sans bruit sur le sol. Ils portent des plateaux pour un festin merveilleux. Oui, des paons entiers, des poissons, aux écailles d'argent et aux nageoires pourpres, entre leurs petites dents, couvertes d'or, on a glissé des branches de laurier, et il y a des grappes de raisin, couleur de rouille, presque dorée, et des grenades ouvertes qui brillent sur de molles oreillers de violettes fraîchement cueillies. Et la mort, ce grand seigneur, est vêtu d'un manteau de velours blanc. Il me fait asseoir auprès de lui, sur une chaise d'or et d'ivoire. Et il est d'une grande courtoisie. Et enfin, je lis un dernier poème, probablement d'ailleurs un des derniers que Hofmannsthal ait composé, qui s'intitule « Le chemin nocturne ». Je fis un jour ce chemin. J'avais 7 ans, j'étais si pauvre, si riche, il me semblait tenir dans mes mains une épée nue, et même les étoiles tremblaient sous ses coups. À 17 ans, je refis le chemin, vraiment seul cette fois. Quelque chose glissait sans bruit dans les prés livides, et d'en haut venait la clarté des mondes inconnus. À présent, je te guide, tu ne sens que ma main. Jadis, j'avais 7 ans, et ce qui fut brille d'une clarté livide, tracé par une main spectrale dans l'obscurité. Vous avez pu entendre successivement 3 pièces de Richard Strauss, dont j'ai dit qu'il était particulièrement lié à Hofmannsthal. La première pièce était un des 4 derniers leaders. Je ne donne pas le titre en allemand parce que je ne parle pas l'allemand et j'écorcherai trop les mots, mais c'est un leader qui, en français, se traduit par « je suis coupé du monde ». Et il était interprété par Magdalena Cosena, la mezzo-soprano, dirigée par la baguette de Claudio Abbado. Puis ensuite, vous avez entendu les métamorphoses pour 23 cordes, toujours de Richard Strauss. Et enfin, toujours un des 4 derniers leaders, qui se traduit par l'heure du sommeil, interprété par Jessie Norman, la soprano, sous la baguette de Kurt Masur. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.